écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Oui, tout à fait. Bonjour, bienvenue dans l'émission Science et Conscience sur Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur présente
Science et Conscience.
François Conneaux.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des évolutions dans la théorie de l'évolution. Un sujet d'émission hautement épistémologique, ou en tout cas, on va essayer d'en faire un petit peu. On ne va pas parler réellement de la théorie de l'évolution, mais du moins des changements de point de vue, et puis aussi de l'idée que l'on peut s'en faire dans le grand public en fonction des processus de vulgarisation qui ont cours un peu partout dans les médias. Alors, lorsqu'on parle de la théorie de l'évolution, ou de l'évolution tout court, avec un grand E, eh bien, on pense immanquablement à Charles Darwin. Voilà. Donc, évidemment, sans rien retirer au génie du grand biologiste britannique, l'histoire des sciences nous impose de comprendre qu'il y a eu un avant Darwin, et bien un après Darwin, et en particulier que Darwin, tout d'abord, et bien n'est pas l'inventeur de la théorie de l'évolution, très très loin s'en faut. Donc nous allons revenir d'ailleurs un petit peu sur cette question. Et bien sûr, plus d'un siècle et demi plus tard, et bien la biologie, de son côté, a suffisamment évolué pour qu'en de nombreux points, la théorie de l'évolution telle que formulée par Charles Darwin a elle-même évolué. Alors, quid d'abord des antériorités tout d'abord. Lorsqu'on parle des théories de l'évolution, eh bien, quelles ont été, qui ont été les précurseurs? Alors, en réalité, l'idée que la vie complexe émerge à partir de formes plus simples, la vie complexe telle que nous la connaissons avec des animaux, des végétaux, des bactéries, émerge à partir de formes plus simples, eh bien, en fait, cette idée est aussi ancienne que l'idée même du matérialisme, c'est-à-dire qu'elle remonte à l'Antiquité grecque. Le lecteur, par exemple, si vous voulez lire un ouvrage simple d'accès sur le sujet, bah vous relisez un poète latin du nom de Lucrèce, donc traduit heureusement en français, et puis vous lisez des choses de la nature. Des choses de la nature, donc en latin ça se dit De Natura Rerum de Lucrèce. Et puis, eh bien, dans ces pages les plus envoûtantes sur ce que l'on appelle la pluralité des mondes, c'est-à-dire le fait que non seulement la Terre est habitée, mais d'autres mondes sont habités ailleurs, eh bien, l'auteur y discerne abondamment de l'univers, des origines de la vie. Et c'est assez instructif, parce que déjà, à l'époque de Lucrèce, la pensée latine héritant largement de la pensée grecque, eh bien, l'idée qui est en vigueur à l'époque, eh bien, est celle que les Grecs appelaient la panspermie. La panspermie, c'est le principe selon lequel la vie naît partout dans l'univers. Hein, contrairement aux apparences, la vie peut naître aussi bien sur la Lune que sur les comètes, que sur les étoiles, etc. Et donc, l'idée qui était en vigueur, on va dire, au temps de l'Antiquité gréco-romaine, eh bien, c'était que la vie naissait sous une forme invisible. Alors, on ne disait pas microscopique à l'époque, parce qu'on savait que le microscope n'était même pas inventé, mais sous des formes invisibles, sous des formes latentes, on va dire. Puis, que la vie pleut sur les planètes, c'est l'expression utilisée à l'époque, hein, que la vie pleut sur les planètes, puis ensuite, elle se développe sur chaque planète de façon justement évolutive, jusqu'à y générer des êtres tels que nous. Voilà un petit peu pour l'idée très antérieure à Charles Darwin, puisque là, on est presque à 1500 ans, 2000 ans pratiquement avant Charles Darwin. Alors, rien d'étonnant, évidemment, quand on descend le cours du temps ensuite, ne serait-ce qu'en Europe et même en France, lorsque l'on passe le cap de la fin de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, bah évidemment, la même idée de la panspermie, de l'omniprésence de la vie dans l'univers qui pleut sur les planètes à partir de formes latentes, invisibles, eh bien, elle est reprise de manière plus élaborée. Hein. Alors, l'écrit le plus édifiant de ce point de vue, on le doit au consul de France en Égypte sous Louis XIV, qui s'appelle Benoît de Maillet, donc un grand militaire de l'époque, et qui publie clandestinement, sous un anagramme de son nom, alors un ouvrage qui s'appelle le Téliamède, donc ça fait un anagramme de Benoît de Maillet, le Téliamède. Et donc l'auteur y examine, à la suite d'un autre précurseur qui s'appelait Jean Bodin, eh bien, ils sont les tout premiers à exprimer l'idée que la Terre s'est transformée et que la vie sur Terre s'est transformée. C'est-à-dire que Jean Bodin avait exprimé l'idée de la dérive, de la transformation des continents, des bouleversements climatiques et hydrologiques. Et d'un autre côté, eh bien, Benoît de Maillet dit que ces transformations des continents, des climats, de l'hydrogéologie, eh bien, transforment aussi la vie et que ceci a imposé aux êtres vivants un transformisme. Alors, on ne parle pas d'évolution, il parle de transformisme, c'est-à-dire une capacité constante des êtres vivants à se modifier pour s'adapter aux nouvelles conditions. Et donc, de Maillet, eh bien, selon de Maillet, nos ancêtres sortent des océans, hein, c'est déjà une idée, hein, sortent de formes de vie plus primitives dans les océans. Donc voilà déjà, là on en est à l'époque de Louis XIV, et on voit que trois siècles avant Darwin, bah, l'idée est déjà bien, alors elle est bien exprimée, elle n'est pas facilement reçue dans la société. Par exemple, Voltaire était un farouche détracteur des théories de l'évolution. Il s'opposait à Benoît de Maillet, il s'est opposé aussi à Buffon. Donc Voltaire était un détracteur, ne croyait pas aux théories de l'évolution, l'Académie des sciences non plus à l'époque. Et d'ailleurs, les théories de Benoît de Maillet ne sont pas passées, par exemple, dans la grande encyclopédie, alors qu'elles auraient pu y être. Voilà. Mais Georges-Louis de Buffon, pour ne citer que lui ensuite, dans sa grande histoire naturelle, eh bien, a repris cette idée. Donc du coup, ce n'était pas dans l'encyclopédie, mais à côté, dans la grande histoire naturelle de Buffon, bah, l'idée du transformisme de Maillet a été reprise. Hein, et donc, évidemment, malgré les scepticismes, eh bien, Buffon, de Maillet rejoignent d'autres grands noms hein, qui prônent l'idée d'une évolution des espèces, en particulier Descartes, toujours sur la même hypothèse, c'est-à-dire que l'univers et la Terre, tout comme la Terre, eh bien, ont une histoire, ont évolué, n'ont pas toujours été comme cela paraissait, et les espèces vivantes se transforment en permanence. Alors, à l'inverse de Darwin, eh bien, Buffon, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas passé à la postérité en tant que grand précurseur des théories de l'évolution? Tout simplement parce que lui croyait que les espèces dégénéraient, c'est-à-dire il croyait qu'il y avait eu une espèce d'apparition initiale d'espèces parfaites et qu'ensuite les espèces s'adaptaient bon an mal an à des conditions de plus en plus difficiles et que donc elles finissaient par dégénérer. Ce qui est complètement évidemment l'inverse, c'est que Darwin, lui, apportait du sens à toutes ces hypothèses. On a vu Lucrèce, on a vu de Maillet, on a vu Descartes, on a vu Buffon, mais Darwin, lui, il a apporté du sens à tout ça. C'est-à-dire, il a dit, en fait, la vie, l'évolution de la vie, elle va du simple vers le compliqué, et ceci, il n'y a pas besoin d'intervention particulièrement difficile derrière, c'est le hasard et la nécessité seuls qui décident du sens de l'évolution des espèces. Et donc l'intuition antique, hein, exprimée du temps de Lucrèce, puis auparavant du temps d'Épicure, eh bien, cette hypothèse est confirmée, c'est-à-dire que la vie eh bien, évolue du simple vers le complexe. Alors, 150 ans plus tard, eh bien, la paléontologie nous confirme que la théorie de Darwin, eh bien, elle est confirmée sans ambiguïté. Alors, il y a eu des transformations. D'abord, la neurologie et surtout la génétique sont passées par là. Et on sait que l'évolution des espèces n'est pas aussi simple que ce que Darwin pensait. C'est-à-dire que les êtres vivants ne se contentent pas de se transmettre des gènes. Les gènes se transmettent par d'autres canaux, en particulier par l'épigénétique. Nous reviendrons dans une autre émission sur ce sujet. Et donc, du coup, l'évolution phylogénétique des espèces est en fait passée de mode, je dirais, chez les biologistes. On parle plutôt de cladistique, c'est-à-dire d'évolution des gènes, d'évolution des génomes. Mais en attendant, le travail de Darwin reste évidemment un travail qui fait date. Voilà, donc nous en avons terminé pour cette émission d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, sur Science et Conscience. À bientôt.